418-971-1021, on vous l'avait promis, on vous en avait parlé un petit peu en début d'émission. Puis en même temps, un peu, c'est un peu le concept de l'émission, vous faire découvrir des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Puis c'est le cas de l'invité qu'on aura dans les prochaines secondes. C'est une fille qui était aux Olympiques, qui a réussi à gagner une médaille. C'est une fille que moi, je ne connaissais pas. On était, moi et mes gars, sur le divan, puis on regardait sa performance parce que je trouvais que ce sport-là, qui était méconnu pour moi, je savais que ça se faisait, mais je savais pas que ça se faisait aux Olympiques. Je trouvais que c'était exceptionnel, puis le degré de difficulté il était très, très, très élevé. Et on l'a vu évoluer tout au long de son parcours aux Olympiques et de voir la finale où on était comme, à peu là, faut pas qu'elle ait une belle performance, faut que notre Sofiane la passe. On était les trois debout en espérant que Sofiane puisse avoir sa médaille.
On devient fiers.
Et là, ben, je viens de vendre le punch. C'est l'athlète olympique Sofiane Mettot qui est avec nous. On peut dire gymnaste trampoliniste, Sofiane?
Oui, trampoliniste, c'est le bon terme.
Parle-moi un peu de ton expérience olympique, là, du début jusqu'à la fin. Comment ça a été? De quelle façon on traite les athlètes aux Olympiques?
Ah, le village était super beau, incroyable. La nourriture était super bonne. Malgré les lits en carton, moi, j'ai super bien dormi, honnêtement. Du positif de A à Z, j'ai rien à dire de négatif.
Ils vous ont donné des lits en carton?
Oui, exactement. Il y a, dans le fond, l'ensemble des athlètes, là, il y a tellement d'athlètes. Il y a 10 500 athlètes qui peuvent rentrer dans le village. Donc, vraiment, c'est pas tout le temps évident, j'imagine, de donner des lits confortables. Fait que c'est des lits en carton avec des petits matelas de différentes duretés là, que tu peux choisir. Mais moi, j'ai pas bien dormi. Il y en a qui se sont plaints, mais moi, de mon côté, tout est bien allé.
C'était pas si pire que ça, là. Ouais, parce qu'on a vu plein de vidéos passer sur les réseaux sociaux, le monde qui les testait, qui sautait là-dessus, voir si on allait bon pour passer à travers.
Et est-ce que vous aviez vos propres chambres ou vous étiez dans des dortoirs?
Bien, dans le fond, c'était un peu comme un mini-dortoir. Moi, j'avais la chance d'être avec les 5 autres gymnastes de gymnastique artistique. Puis on avait 3 chambres dans notre petite maison. Puis on était 2 par chambre.
Okay. Est-ce que vous vous connaissez pas mal toutes déjà? T'sais, on a l'impression des fois que vous baignez toutes dans le même milieu, vous êtes athlète, vous travaillez fort, vous vous entraînez pendant 4 ans pour arriver au jeu. Est-ce que tout le monde se connaît pas mal déjà, mettons, dans les athlètes du Canada, je parle, là, où vous faites pas mal de liens pendant ces 2 semaines-là?
Non, je dirais qu'on connaît déjà les athlètes, t'sais, malgré qu'on fait pas la même discipline exactement. T'sais, on suit nos autres athlètes qui font partie de la fédération de gymnastique. Puis même que t'sais, des fois, on a la chance aussi de compétitionner avec eux, que ce soit à des championnats canadiens ou quoi que ce soit. Donc, puis on les connaît.
On sait que c'est un quotidien qui est assez difficile quand même d'être athlète sur le mental, le physique, l'émotionnel. De ce que je comprends, tu as quand même eu un bout difficile. Qu'est-ce qui te pousse à quand même vouloir te dépasser comme athlète d'année en année? Parce que de ce que je comprends, les Jeux de Tokyo, tu n'as pas été capable de te qualifier pour blessure. Quel effet ça a eu sur toi?
Oui, effectivement. Moi, tout le processus de Tokyo a été hyper difficile. J'ai comme fait un peu mon deuil des Jeux. Pendant même le processus, puisque j'ai été blessée dès la première sélection olympique. Donc, par la suite, j'ai même pas pu participer aux autres. Ça a été un moment qui a été quand même assez difficile, mais moi, j'ai vraiment profité de ce moment-là pour essayer de travailler tous les autres petits éléments qu'on travaille pas nécessairement au quotidien. On est tellement axé sur le trampoline, faire des nouveaux mouvements, des nouvelles routines. Puis moi, à cause de ma blessure, j'avais pas cette occasion-là de le travailler. Donc, je me suis dit, pourquoi pas travailler toutes les autres choses autour, que ce soit la musculation, la visualisation. Fait que je me suis dit, moi, je vais utiliser tout mon environnement externe. Comme ça, quand je vais revenir, bien, ça va peut-être m'aider. Puis même, tu sais, c'est des outils que j'ai développés que je me sers encore aujourd'hui.
Est-ce que tu avais eu un blocage psychologique sur des gestes que tu devais poser sur la trampoline? Il me semble avoir perçu ce genre de témoignage-là de ta part. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es ramassé sa trampoline en disant « Non, on dirait que ça marche plus mes affaires. »
Oui, effectivement, j'ai fait face à des blocages mentaux à répétition. C'est très fréquent là, chez... Dans le sport où que ça requiert de l'orientation spatiale, peu importe. Okay. Dès qu'on flippe, dès qu'on twist, des fois, le mental l'emporte un peu sur notre corps. Moi, dans le fond, c'est comme s'il y a un moment que mon corps était juste plus en symbiose avec mon cerveau. Ça l'envoyait des signaux contradictoires. Donc, j'avais comme peur de monter sur la trampoline. J'ai perdu l'essence, la base de mon sport, qui est vraiment de sauter. C'est un peu comme l'équivalent pour un nageur de même pas capable de rentrer dans l'eau. Donc, Ça n'a pas été hyper facile comme moment, puis ça m'est arrivé à plusieurs fois.
Parce que c'est hallucinant, c'est des gestes que tu poses chaque jour lors des entraînements, puis à un moment donné, ton corps dit « Non, ce ne sera pas aujourd'hui que tu vas sauter, ça ne fonctionne pas, il y a un blocage. » Et ça, est-ce que tu as eu recours à des entraîneurs spéciaux, à des psychologues sportifs qui t'ont aidé à passer au travers de ça?
Oui, justement, à un moment donné, quand, en tant qu'athlète, tu te retrouves au fond du baril, tu essaies de trouver des solutions autour de toi. Pas tout le temps facile pour s'en sortir. Fait qu'on a besoin de ces spécialistes-là autour de nous. Donc, moi, je suis allée chercher des ressources, des outils autour de moi pour m'en sortir, que ce soit par la visualisation. J'ai même essayé de faire de l'hypnose avec Pierre Bouillon. Ça a été très, très bon pour moi. Je pense que ça m'a aidé à m'en sortir. Puis aussi, tout ce qui est par rapport à la respiration aussi. C'est comme si ta tête veut te jouer des tours, puis que toi, en tant qu'athlète, t'arrives à reprendre le dessus, puis c'est ça qui est difficile. Donc, d'avoir ces outils-là autour de moi, tranquillement, j'ai pu reprendre le contrôle.
C'est une drôle de question que je vais te poser, Sofiane, mais qu'est-ce qui te donne envie de continuer? Parce qu'on dirait que moi, je passe à travers ce genre d'épreuve-là mentale, puis tu sais, on jasait tantôt hors d'onde, tu nous disais 8 mois sans alcool, là, t'es en vacances avec ta famille encore en France, tu visites, tu vis la belle vie. Pourquoi un athlète a le goût de continuer, de persévérer, puis de continuer dans son sport, finalement? Parce que, je veux dire, l'abondance est assez disponible facilement, puis vous décidez de pas la prendre, là.
Oui, effectivement, la carrière d'un athlète, c'est pas tout le temps facile. Il y a des hauts, il y a des bas, puis ça peut être facile d'abandonner, mais moi, je dirais, le point important qui me fait continuer, c'est vraiment que j'aime ça. Je suis une passionnée de la trampoline, je suis une passionnée de m'accomplir, de me donner des nouveaux objectifs, des nouveaux défis. Moi, j'ai la chance que je dis tout le temps à tout le monde que j'ai le meilleur travail au monde. Je fais qu'est-ce que j'aime, je me garde en forme, puis je voyage. Donc, vraiment, qu'est-ce qui fait que je continue, c'est que j'aime ce que je fais.
Mettons que tu nous fais vivre les dessous là, de ce que tu as vécu dans le village olympique pendant les Jeux. Ton meilleur souvenir, outre le sport, là, parce que là, j'imagine que vous avez accès à mille et une affaires, à part les liens en carton puis la bouffe, là.
Oui, ben c'est pas à même le village olympique, mais c'est quand même relié. Il y avait une maison du Canada qui a été faite par le Comité olympique canadien. Donc, c'était une place où on pouvait se rassembler, famille, amis. Il y avait également, ils mettaient à disposition des écrans où on peut aller regarder les athlètes, les performances, tout ça. Je pense que c'est vraiment comme un centre où que le monde pouvait se rassembler, les Canadiens pouvaient se rassembler. Il y a des athlètes qui allaient là par la suite après. Donc, moi, je pense que ça a vraiment été un moment fort là, de mon expérience.
Tu as pris combien de bières pendant ton parcours olympique?
Combien de bars que j'ai bu?
Il ne suit pas en game pantoute.
Parce que je sais qu'aux Olympiques, surtout les Olympiques sont très sévères sur l'alcool. Sur pendant les événements, on n'a pas le droit de circuler avec de l'alcool et tout ça. Pour ce qui est des athlètes, ça fonctionne comment? Y en a-tu qui avaient de drôles de soirées?
Ben, c'est sûr que au village, c'est pas tout le monde qui compétitionne en même temps. Ouais. Il y en a qui finissent plus tôt. Il y en a qui ont le goût de célébrer plus tôt. Mais je pense que... ça fait partie de l'expérience et je crois que des fois, c'est le fun de célébrer les athlètes de tout sport, tout niveau. On met tellement d'efforts, de sacrifices dans qu'est-ce qu'on fait.
Ouais.
Donc, même si c'est des petites célébrations, là, je pense que c'est bien mérité.
Puis tu t'es privé d'alcool pendant combien de mois avant les Jeux olympiques?
Oui, moi, j'avais décidé personnellement de faire un 8 mois sans alcool, juste pour vraiment, moi, quand je me suis fait nominer puis que j'ai sélectionné le Canada pour les Olympiques, je voulais avoir aucun regret. Je voulais pas regarder derrière moi puis me dire « Ah, j'aurais peut-être pu faire ça de plus » ou « Ah, ouais. Oh, j'aurais vraiment pu pousser ». Fait que moi, à chaque fois que j'arrivais dans le gym, je donnais mon 110%. J'ai fait attention à ma nutrition, mon sommeil. Je faisais beaucoup plus de visualisation, de méditation. J'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté. Puis justement, je suis arrivée dans le village puis je me suis dit « Peu importe ce qui arrive, j'ai tout fait pour me rendre ici, j'ai tout fait pour être à mon meilleur. »
Puis là, depuis ta médaille olympique, t'as bu un verre?
je dirais peut-être deux. Moi, je suis un peu moins bière, mais sangria, c'est ouais. Tout le temps bon. En plus, je suis en vacances avec ma famille puis mes amis, donc c'est le fun le soir.
Qu'est-ce qui t'a manqué dans toute cette préparation-là? T'sais, tu dis que tu as toutes mis les chances de ton côté. Y a-t-il de quoi que tu avais vraiment hâte de manger ou boire en finissant?
Des bonbons. Honnêtement, ça a été, je pense, mon plus gros craving que j'ai eu et que je me suis privée de manger pendant un petit bout. Même que je pense que c'était peut-être une semaine avant ma compétition. Souvent, justement, à la Maison du Canada, pour les athlètes, ils donnent accès à des bonbons ou des collations, peu importe. J'avais pris deux paquets de bonbons, je les ai donnés à ma coach, puis j'ai dit, mets ça dans ton sac, puis quand que je finis ma compé, je veux que tu m'y redonnes.
Ah, oh, c'est donc bien le fun. Fait que t'as mangé ça directement après avoir fait ta compétition.
Ah ouais, je pense que c'est la première chose que je voulais manger.
Okay. Quand tu es arrivé à la compétition, tu as vu qu'il y avait énormément de gens qui assistaient à cette compétition-là. Est-ce que c'est un stress supplémentaire pour les athlètes d'avoir autant de gens dans le stade qui scrutent la moindre petite erreur que vous pouvez faire sur la trampoline? Moi, honnêtement, je vais être très honnête avec toi, là. Si tu faisais une erreur, je m'en rendais pas compte. Fallait que le descripteur à la télé me le dise parce que je ne connais pas ce sport-là. Mais pour vous autres, en tant qu'athlètes, quand il y a du monde comme ça qui vous scrute, quand vous savez que c'est des millions et des millions de personnes qui vous regardent à la télé, est-ce que mentalement vous êtes conscient de ça ou vous êtes juste dans votre propre bulle?
Mais c'est sûr que nous, en trampoline, on n'est pas un sport hyper connu, donc on n'est pas habitué d'avoir des grandes foules. C'est très rare qu'on ait une grande audience puis beaucoup de monde dans les estrades. Donc je m'étais un petit peu préparée à ça, là, à savoir qu'il allait y avoir un petit peu plus de monde, peut-être plus de bruit, plus de distraction. Mais je suis un athlète qui est très, très dans ma bulle. Souvent, je vais mettre mes écouteurs. Puis la réalité de la chose aussi, je pense, c'est que peu importe l'environnement, le nombre de personnes qui te regardent, que ce soit 1 million ou une personne, t'as offert une routine que tu as fait des centaines de fois. C'est le même format de compétition que tu connais, que tu as fait depuis que tu es tout jeune. Donc, tu t'en vas juste faire. Pour toi, c'est comme un peu la normalité, là. Fait qu'il y ait une personne ou 1 million, tu connais ta routine, puis tu t'en vas juste là pour performer.
Est-ce que tu as été voir les autres disciplines? Est-ce qu'il y a des sites qui t'ont marqué plus que d'autres? Moi, le château de Versailles, écoute, ça m'a jeté à
Magnifique.
terre, là. C'était de toute beauté. De ton côté, de tes yeux à toi?
Ben moi, je suis restée pour regarder. On a eu la chance d'aller voir l'athlétisme. Donc ça, c'était très, très impressionnant au Stade de France. Je pense qu'il paraît quasiment 80 000 personnes. Donc, c'était énorme. C'était le fun d'aller voir aussi une autre discipline. Également, on est allé voir la finale par équipe de gymnastique artistique féminine et masculine pour quand même aller encourager notre équipe.
C'était une surprise pour toi quand tu as vu tes amis qui t'avaient rejoint en France?
Oui, je savais qu'il m'avait dit qu'il allait venir, mais tout de même, là, d'avoir un repère dans la foule, je
Ouais.
pense que ça a vraiment été quelque chose que je peux m'accrocher entre chacune de mes routines. J'avais comme vu ma famille était où dans les estrades. Donc vraiment de pouvoir leur faire un petit coucou entre chaque routine, on dirait que ça me ramenait à ma maison, à la maison, dans ma zone de confort. Donc vraiment, j'étais très, très contente et reconnaissante qu'il ait fait comme tout ce chemin-là pour venir me voir.
Nos espions nous disent que là, actuellement, tu es dans un château en Europe. Tu es dans quel château présentement?
Oui, à même qu'on parle, je suis dans le château royal d'Amboise,
Ça se
qui
plug
est
bien, hein?
dans la. Oui, ah, j'ai une très belle vue en ce moment là pendant que je vous parle. C'est très très beau. Puis c'est proche, c'est comme à 2 heures environ là de Paris, un petit peu plus au sud dans Val-de-Loire.
Donc, tu es la princesse Sofiane ou la reine Sofiane au château royal d'Amboise?
Moi, je dirais que je suis la princesse. Je pense que ma maman, je vais la mettre comme reine.
Oh, c'est beau
Okay.
ça.
Puis les prochaines étapes pour Sofiane Mettat, est-ce que tu penses déjà à dans 4 ans où tu te dis non, là je vis mon moment, puis après ça, ben, on réfléchira au futur? Parce que tu es encore très jeune, tu as 25 ans, je crois.
Je viens tout juste d'avoir 26.
26?
Ouais, mais oui, ben là, premièrement, c'est sûr, je vais prendre mes vacances. Comme qu'on l'a dit, les 8 derniers mois ont été tellement intenses. Je pense que de mettre à off le mental et le physique, ça va faire du bien. On a besoin de récupérer, surtout pour les athlètes. Mais je dirais que tout ce processus-là, j'ai jamais été à un plus haut niveau physiquement, mentalement, émotionnellement. Que quand j'étais à ma compétition, j'ai réussi à atteindre mon plus haut niveau de trampoline. Donc, pour sûr, je veux poursuivre, je veux voir jusqu'où je peux me rendre, me donner des nouveaux défis, des nouveaux objectifs, et définitivement qu'elle est 2028 en fait partie.
Moi, Sofiane, là, je vais à Ronde, puis des fois, je t'étourdis, là. Je vous vois sauter à 8 mètres dans les airs. Vous faites des spins d'un bord et de
C'est
l'autre.
impressionnant.
T'as eu idée quand de faire de la trampoline? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est découvert sur le tard ou très jeune? Je sais pas, t'as embarqué sur une trampoline, t'as dit, c'est ce que je veux faire de ma vie?
Ben moi, je sens que c'est un petit peu la trampoline qui me choisit.
Hein?
Prime abord, je voulais faire de la gymnastique artistique. Il y avait plus de place dans le club de la région. On nous a référé vers une autre branche de la gymnastique qui est l'acrosport. Faut être flexible, c'est de la danse, ça se fait souvent en duo ou en trio. Puis on a vite réalisé que c'était pas ma force. Moi, j'étais beaucoup très puissance brute, dynamisme, rapidité. Donc, mon entraîneur m'a comme fortement suggéré d'aller plus vers le trampoline. J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté.
Puis là, mettons que tu t'as parlé des Jeux de LA là, dans 4 ans. Là, si tu fais les Jeux, comment ça marche pour un athlète? À partir de quand tu recommences, mettons, l'entraînement?
Je pense que ça dépend vraiment de chaque athlète. Je pense qu'on est rendu à un point où on connaît nos besoins, on connaît notre corps, on connaît notre mental, le temps de vacances qu'il y a besoin. Moi, personnellement, pour ça, je vais peut-être prendre un mois et demi, 2 mois vraiment de repos, puis pas nécessairement pour rien faire, mais juste me permettre de faire d'autres choses. En tant qu'athlète, on a souvent peur de se blesser, ou on va pas faire, tu sais, d'autres sports pour vraiment optimiser nos entraînements. Donc, j'ai vraiment profité pour faire peut-être d'autres activités que d'habitude, je fais pas.
Hey, je m'attendais, on dirait, à ce que tu me dises, je vais prendre une pause d'un an, 2 ans, puis dans 2 ans, je vais m'entraîner
Ouais.
2 ans, mais juste un mois et demi, Seigneur. T'étais pas généreuse envers toi-même, quoi, que vous avez sûrement pas le choix, là.
Ah, puis des fois, c'est le corps qui en a besoin aussi, là, de
Ouais, sûrement,
s'entraîner.
là.
Oui, exact. Souvent, c'est le corps, mais il y a aussi beaucoup le mental, des fois, qui est en jeu, là. Les jeux, c'est très, très stressant. On se met beaucoup, beaucoup de pression. Des fois, le sommeil, c'est pas évident de s'endormir quand tu sais que dans un mois, tu vas te retrouver à la télé devant 1 million de personnes. Donc, tu sais, de prendre tous ces facteurs-là, là, puis vraiment de prendre une bonne pause pour se permettre de récupérer. Oui, effectivement, un mois et demi, ça peut pas paraître long, mais pour un athlète, on est tellement habitué d'avoir un horaire chargé. Puis là, pour moi, de me retrouver quasiment 2 mois sans horaire qui est organisé au quart de tour, ça va quand même être, je pense, un défi là, en soi.
Ouais, puis t'as de l'air à être assez structuré. Je pense que tu fais une maîtrise actuellement en finance.
Oui, effectivement.
Ouais.
Pour moi, ça a tout le temps été super important là, d'avoir ces deux facettes dans ma vie, autant ma passion pour le sport, mais aussi l'école, parce que la réalité d'un athlète, c'est que après notre carrière, qui est pas infinie, ben on a un après. Puis je me dis, si je t'outille avec quelque chose d'autre, peut-être que la transition de ma carrière sportive vers professionnelle va se faire plus facilement.
Est-ce que pour un Canadien ou une Canadienne, quand on remporte une médaille aux Olympiques, est-ce qu'on devient multimillionnaire?
Non,
Non.
malheureusement, j'aimerais ça. Non, non, sans blague. Mais tu sais, on est hyper chanceux au Canada, également au Québec. On a quand même des bonnes subventions là, qui sont données
Ouais.
aux athlètes. Vraiment, tu sais, pour nous aider dans notre parcours, que ce soit pour payer peut-être des camps d'entraînement à l'extérieur ou peu importe, là. Donc non, on n'est pas riche, mais quand même, là, le Canada nous aide quand même beaucoup.
Sofiane, la dernière question que moi j'ai envie de te poser, c'est une question que je me pose souvent à travers mon travail. Est-ce que tu sais, t'es qui à part la trampoline? On a souvent cette perception-là que les athlètes, ben, ils font leur sport dès un jeune âge. Je te dis tantôt que tu as commencé à 9 ans la trampoline, c'est vraiment jeune, là. Est-ce que tu as l'impression que si demain matin tu arrêtes ça, t'as plus rien autour de toi, tu manques de repères?
Moi, personnellement, non. C'est sûr que quand le monde me voit, la première question qu'ils vont me poser, c'est comment ça va la trampo? Donc,
Ouais.
souvent, tu sais, on va associer ma personne à la trampoline, puis c'est correct parce que ça fait partie de moi, puis c'est quasiment la plus grande partie de moi en entier. Mais, tu sais, tout de même, on a d'autres choses. T'sais, moi, j'essaie vraiment d'avoir un équilibre de vie qui est sain. Donc, tu sais, d'avoir d'autres passions, juste que la trampoline, d'avoir, tu sais, que ce soit avec mes amis, ma famille, de prendre du temps pour moi. L'école aussi, c'est un autre branche qui est importante pour moi. Fait que je pense que c'est juste d'avoir d'autres choses, de trouver un équilibre à travers tout ça là, pour pas devenir vraiment juste être ton sport en entier.
Sofiane, tu es extrêmement inspirante, puis merci beaucoup de nous avoir fait vivre toutes ces émotions-là aux Olympiques. Mes gars, ils n'en reviendront pas que j'ai parlé à Sofiane méthode quand je vais leur dire ça tantôt. Ils vont être extrêmement contents. En fait, ils ne me croiront pas au départ, puis après ça, ben, je vais leur faire entendre l'entrevue. J'espère que tu as donné l'idée à plein de jeunes Québécois et plein de jeunes Québécoises de faire ce merveilleux sport qui est la trampoline.
Ben, merci beaucoup à vous.
Salut, puis arrête de nous faire suer avec ton bonheur au Château
Oui,
Royal
c'est ça.
d'Amboise, là.
Hey, profites-en pour vrai, c'est
Désolée.
mérité.
Amuse-toi, puis profites-en.
Merci.
Salut, merci
Salut,
beaucoup.
bye.
La,
Ah, charmante.
l'athlète olympique, Sofiane Metta, tout à fait charmante. Puis moi, j'avais vu un reportage sur elle. J'avais été charmé par la personne, par l'individu, un individu extrêmement brillant, quelqu'un qui avait un rêve, c'est-à-dire d'aller aux Olympiques puis remporter une médaille. Puis je ne sais pas si tu l'as vu, le segment, là, mais à un moment donné, il y avait une trampoliniste qui était là. Puis si elle avait une belle performance, elle pouvait passer devant Sofiane. Puis si elle avait une mauvaise performance, elle pouvait tomber en dessous de Sofiane. Puis elle s'est plantée.
Oh! Oh.
Fait que là, moi, c'était comme, pauvre petite, elle vient de se bêcher. Mais j'étais content. Mais mes deux gars, ils ont levé de terre, là, parce que les autres, ils regardaient Sofiane. Mais moi, j'étais content parce que là, elle, ça y assurait une médaille.
Ben oui, c'est ça, absolument.
À ce moment-là. C'est cruel, mais c'est
mais c'est ça pareil, c'est quand sport. Tu prends pour ton athlète, exactement.
Puis de voir à quel point ils se spinent dans les airs.
Ah, c'est capoté.
C'est 8 mètres dans les airs, puis eux, ils trouvent le moyen de faire des pirouettes au travers
de drette, ça. C'est drette, là. Ça n'a rien à voir avec le backflip que tu fais sur ta trampoline arrière.
Puis le X que tu as sur ta trampoline, tu as comme des références. Ouais. Là. Eux autres, ils le voient en tout temps.
Oui, faut que tu atterrisses là, faut que tu atterrisses drette, faut pas que tu rebondisses. C'est vraiment, vraiment bien fait.
Moi, j'en ai fait chez ma chum de fille. Là. J'ai atterri, pillé ses ressorts. Là. Je me suis pété à la gueule.
Il y a donc, hein. J'avais un petit voisin quand j'étais jeune, il s'était pété à la jambe sur la trampoline chez nous. Épouvantable qu'on n'avait pas de talent. Mais je trouve ça hot parce que, tu sais, des fois, tu entends des histoires d'athlètes qui ont été un peu, à quelque part, forcés dans leur sport. Ouais. Tu sais, les parents les ont inscrits, leur a poussé dans le derrière, ça les a menés loin, mais ils ne sont pas totalement heureux. Ils n'ont pas autre chose que le sport, même à un certain stade. Puis elle a l'air accomplie à tout plein de niveaux. Je trouve ça hot. Tu sais, je lisais, toi, tu as vu cette vidéo-là. Moi, j'ai vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux la vidéo où sa famille est accompagnée pour la compétition. On les suit, puis tu vois que c'est une famille qui est aimante, qui la supporte, qui trippe bien raide sur ce qu'elle fait. Puis tu sais, elle a commencé la gymnastique après avoir vu un film au cinéma. C'est elle qui a voulu commencer la gym à 8 ans. Puis il me semble que c'est quand même tard, 8 ans, pour commencer la gym. D'habitude, les athlètes commencent des fois plus jeunes que ça même. Fait que je trouve ça hot que ça a toujours parti d'une passion. Ça l'a suivi, elle est rendue à 26 ans. Puis elle a l'intention à 30 ans de faire les jeux du côté d'Élie. C'est malade, là.
Voilà. Et en passant, avant de passer à la pause, on va tous s'apprendre quelque chose si vous ne le saviez pas déjà. On dit... le trampoline.
Oui, c'est vrai. Parlons le bon français. Ça se dit, c'est épouvantable.
Est-ce qu'on dit le boss ou la bus?
C'est un boss, techniquement.
Ah, ouais, c'est ça.
Non, c'est une boss. C'est un autobus.
Une boss.
Eh boy, on va aller faire nos devoirs. Yann.
Chose sûre, c'est le trampoline. Puis, maudit que ça se dit mal.
T'es un fan de podcast?